je vous présente le professeur Jérôme Porta de l'Université Bordeaux. Donc moi, je suis Isabelle Boukobza et je suis professeure de droit public à l'Université de La Rochelle. Donc Jérôme Porta est professeur de droit privé, moi je suis professeure de droit public. Donc nous représentons tout le droit ici. Non, je plaisante. Nous sommes membres de ce projet de recherche Régine. Donc l'acronyme c'est Recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe. C'est plus facile de retenir le terme Régine, mais sachez donc qu'il s'agit de recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe. Nous avons mené donc cette recherche avec un groupe d'à peu près 35 chercheurs qui a donné donc lieu à la production de cet ouvrage, La loi et le genre. Oui, La loi et le genre, études critiques de droit français. Donc, la première chose que nous tenions à préciser, c'est qu'il s'agit d'une étude scientifique et non pas d'un travail militant. Donc, nous ne revendiquons pas l'adhésion à une quelconque théorie du genre. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que la théorie du genre. Il y a beaucoup de malentendus sur ces questions. Mais en tout cas, ici, on n'est pas dans une démarche militante. On est dans une démarche scientifique. Et le genre est compris ici comme un concept d'analyse. D'analyse d'un objet particulier qui est le droit. Les études juridiques axées sur les questions de genre sont très répandues à l'étranger, notamment aux États-Unis et dans d'autres domaines que le droit en France. En revanche, le droit, lui, n'avait jamais fait l'objet d'une analyse genrée. Donc c'est cette exploration-là du monde juridique à travers le prisme du genre que nous avons mené dans ce groupe de recherche. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ?
Oui, je veux bien rajouter quelques éléments pour expliquer comment on a procédé et aussi comment nous situer, en fait. Parce que si on n'est pas juriste, on perçoit mal la place que peuvent occuper une étude sur le genre dans le champ du droit, dans le champ de la doctrine, c'est-à-dire de ceux qui décrivent le droit. En fait, ce qui était sidérant en France jusqu'à assez récemment, c'est qu'en réalité, dans tout le champ des sciences sociales, notamment sous l'influence des gender studies, il y avait bien des études sur le genre, ou en tout cas sur des questionnements autour de la question du genre, que ce soit en sociologie, en ethnologie, enfin, etc. Et le droit restait relativement silencieux sur ces questions-là. Non pas qu'il n'y avait pas à proprement parler d'études sur l'égalité homme-femme, mais ces études-là se contentaient finalement de traiter de la question d'égalité homme-femme, de raconter quel était le droit applicable en matière de lutte contre les discriminations et lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais il n'y avait pas vraiment un champ ouvert à ce type de questions. Et une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'études sur le genre, et ce qui fait que probablement le projet Régine est assez original de ce point de vue-là, c'est que dans le champ du droit français, dans le champ des sciences juridiques françaises, il n'y a pas à proprement parler ce genre scientifique qui correspond aux legal studies, c'est-à-dire à des études avec une hypothèse juridique qui creuse un champ disciplinaire, qui tente d'approfondir une hypothèse de recherche. Finalement, souvent, le travail des juristes est un travail très descriptif, très doctrinal. Et donc, Régine a une sorte de double originalité, à la fois ouvrir un champ de travail sur le genre dans le domaine des sciences juridiques, et puis à côté, une deuxième originalité, même si là, pour le coup, heureusement, le projet Régine n'est pas complètement seul, d'avoir une sorte de projet de recherche à la manière d'autres sciences sociales, à la manière de la sociologie, ou de l'ethnologie, ou de l'anthropologie, ou de l'économie. Je crois que pour comprendre l'originalité du travail, il est un peu double. Et donc, on pourra y revenir, il y a une sorte de double intérêt dans les travaux Régine, en tout cas pour nous. C'était à la fois d'ouvrir un champ de recherche sur la question de genre, et on va revenir sur ce que pour nous ça recouvrait. Et en même temps, une sorte de réflexion sur qu'est-ce que c'est que faire du travail en droit, qu'est-ce que c'est que d'écrire le droit, qu'est-ce que ça peut être qu'un travail de science juridique. Là, ici, il y a ce double aspect, un aspect à la fois un peu d'écart, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en travaillant sur les questions liées au genre, on était obligé de soulever tout un ensemble de problèmes méthodologiques que les juristes n'ont pas toujours, même si certains le font, mais n'ont pas toujours tendance à faire. Et puis, d'un autre côté, on ouvre un nouveau champ. Juste un mot quand même pour dire les résultats de Régine, c'est des résultats qui sont en fait assez enthousiasmants. C'est un projet qui dure de... J'avais noté, je crois qu'on était plus que 40 membres, mais peut-être qu'on en a perdu en chemin. C'est un projet qui a duré de 2011 à 2015. Et pour l'instant, comme output du projet, il y a non pas un seul ouvrage, mais il y a deux ouvrages. Il y a un premier ouvrage qui est paru il y a quelque temps, je crois qu'il y a un an. Aux éditions d'Alloz, et qui s'intitule « Ce que le genre fait au droit ». Et puis, il y a qui pose tout un ensemble de réflexions, alors plutôt méthodologiques, sur comment on peut faire une recherche juridique en se posant la question du genre et quel type d'outils ça implique pour décrire le droit. Et puis, d'un autre côté, il y a ce second ouvrage qui a presque une vocation encyclopédique, hein, puisqu'il couvre, enfin, il a prétention, même s'il ne le fait pas pour de vrai, mais en tout cas, il ouvre des études sur tous les domaines du droit privé et du droit public. C'est-à-dire, on va du droit des biens au droit parlementaire, en passant par le droit du travail, le droit de la protection sociale, le droit de l'aide sociale. Enfin, le champ couvert est extrêmement large. Et il y a, alors pour ceux qui ne sont pas juristes, vous allez trouver que la remarque est presque anecdotique, mais pour ceux qui sont juristes, ils comprendront là à quel point ça... C'est symptomatique même d'une sorte de changement historique. C'est il y a pour la première fois à la revue d'Alloz, grâce au projet Régine, un panorama intitulé « Droit et genre ». Alors un panorama, c'est une sorte de revue de jurisprudence qui raconte l'actualité de la jurisprudence sur un thème. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que d'habitude, c'est séquencé par grands domaines du droit. C'est-à-dire, il y a un panorama pour le droit des sûretés, un pour le droit du travail, un pour la protection sociale, un pour le droit du commerce. Et c'est non seulement la première fois qu'il y a un panorama, évidemment, sur le genre, et donc c'est pas la preuve, mais ça ouvre une sorte de champ disciplinaire, de facto, c'est-à-dire que ça devient un des objets sur lesquels les juristes travaillent. Ça a cessé d'être un objet un peu imaginaire ou un peu provocateur. En fait, dans une des principales revues juridiques, bah, c'est devenu mainstream, pour dire les choses simplement. Et deuxième chose, ça installe dans le champ des sciences juridiques une autre manière de faire du droit, c'est une manière de faire du droit avec une visée beaucoup plus constructiviste ou en tout cas méthodologique sur la manière de travailler sur le droit. Et je crois qu'il y a les deux aspects en fait dans le projet Régine. Est-ce que sur ce terrain-là, tu veux...
Non, c'est ça, c'est cette idée que finalement, ce travail, c'est aussi une approche différente du droit, une façon d'approcher le droit différente, de le regarder. C'est employé dans l'introduction de l'ouvrage, vous pourrez le voir, de regarder le droit au prisme, au crible du genre, et de se poser la question de savoir eh bien, quels sont les rapports entre le droit et le genre. Alors peut-être que pour être plus explicite, il faudrait préciser ce que nous entendons, nous, dans le projet Régine, par genre.
Alors, on a deux, trois éléments sur le... En fait, d'entrée, on a eu des débats assez importants, en fait. C'est-à-dire que c'est dans le groupe de recherche. Ce n'est pas inutile de vous raconter comment on a construit la recherche, mais quand on a été réunis, la recherche se déroulait dans une université de l'Ouest parisien, qui est l'université de Paris-Ouest-Nanterre. Donc, quand on a été réunis dans la grande salle de... Il fallait une grande salle pour tous nous contenir, réunis dans la grande salle de Nanterre. Ce qui est intéressant, c'est que d'entrée sur le projet, il y avait, enfin, vous vous doutez, hein, un profond désaccord sur ce sur quoi on allait travailler, en fait. C'est-à-dire que la première réunion a été une réunion gentiment cacophonique, où en fait, entre ceux qui avaient une posture plus militante, ceux qui avaient une posture plus féministe, ceux qui avaient une posture très, peut-être même contestataire vis-à-vis du projet, en fait, il y a eu un moment où il a fallu s'accorder. Et le point, c'est trouvé sur une sorte de souhait d'être d'abord dans... Alors, pas forcément dans l'objectivité, parce que pour les sciences juridiques, enfin, on pourra en discuter si vous voulez, mais ça... Ça n'a pas évidemment beaucoup de sens de dire que c'est un travail objectif. Ce n'est pas tout à fait... Mais en tout cas, une exigence d'objectivation. C'est-à-dire, pas d'écrit qui soit radicalement militant,
purement militant
ou purement militant. Ce n'est pas un travail, par exemple, féministe. En réalité, on a essayé de travailler avec un type de questionnement qui était de comprendre comment le droit, l'ensemble des règles dans les différentes branches du droit, participait d'une construction des rapports entre les différents sexes. Et comment les rapports entre les différents sexes étaient également pris en compte par les dispositifs juridiques. Et donc l'ouvrage est une sorte de grand recensement des différents types de questionnements ou des différents types de rapports conçus par le droit, c'est-à-dire la manière dont le droit se représente le rapport entre les sexes et la manière également, enfin évidemment, dont il prétend influencer sur ces rapports entre les sexes. Donc, pas du tout un travail, en tout cas, moi, me semble-t-il, pas un travail qui correspond à cette sorte de mythologie politico-médiatique sur la théorie du genre. En réalité, de ce point de vue-là, on a plutôt été assez fidèle aux gender studies. C'est un champ de questionnement. Qu'est-ce que le droit, comment le droit prend en compte et comment le droit participe d'une construction des rapports entre les deux sexes. À partir de ce questionnement-là, en fait, on s'est confronté, mais si vous voulez, on pourrait y revenir, à savoir quel type d'outillage on allait avoir pour décrire le droit. Et c'est vrai que quand on regarde, et si vous lisez le livre ou si vous le feuilletez, je crois qu'une des choses qui en fait la richesse, et de ce point de vue-là, il ne faut absolument pas l'abdiquer, c'est qu'il n'y a pas véritablement un unique questionnement, une seule manière de traiter de la question. Au début, c'était le travail envisagé, c'est-à-dire que dans une sorte de mouvement d'objectivation très, très scientifique, on a collectivement construit une grille d'analyse avec tout un ensemble d'hypothèses sur des distinctions entre des règles sexo-spécifiques, des règles qui correspondaient à des stéréotypes, des règles qui étaient discriminatoires, etc. Et en fait, très vite, ce type d'objectivation très forte se heurtait à la matière juridique qui, en réalité, nécessite constamment une interprétation, une herméneutique pour être bien comprise. Et finalement, ce qui résulte du livre, moi, j'ai l'impression, mais peut-être tu diras différemment, mais qu'il y avait, selon les études, trois types de thèmes qui sont abordés, selon les matières et selon les auteurs. C'est-à-dire chacun a fait de ses recherches sur la question du genre un peu à sa manière ou en fonction de ce qui l'intéressait. Il y a une première manière qui a finalement repris un chemin assez classique sur les juristes. Il y a certains écrits qui travaillent sur les dispositifs, les règles, les programmes, les équipements qui, dans le droit, luttent en faveur de la promotion de l'égalité homme-femme. Il y a quelques articles qui travaillent à décrire comment, dans le droit, il y a tout cet ensemble de dispositifs qui visent à garantir une égale rémunération entre les hommes et les femmes, à garantir une certaine parité dans les instances de représentation politique, etc. Ça a été le premier champ d'analyse, et c'est un champ assez riche, finalement avec une posture très classique de description du droit, ici pour faire le point, et parfois avec un retour sur comment ça implique une représentation de la prise en compte de la distinction homme-femme par les dispositifs politiques.
Oui, si je peux ajouter quelque chose, ici, on a pris en considération le genre comme un outil du droit, comme un outil de la promotion de l'égalité homme-femme. Et donc, le travail portait justement sur des normes juridiques genrées qui avaient pour justement objectif de faire cesser. En tout cas, par exemple, dans le cadre de la parité en politique, l'objectif était d'adopter des normes juridiques genrées pour faire cesser la domination masculine sur les lieux de pouvoir politique. Et donc ici, on était effectivement dans une prise en considération du genre comme un outil au service des institutions politiques pour bouleverser les rapports qui étaient les rapports établis entre hommes et femmes. Et des rapports établis par le droit jusque-là.
Et en fait, à partir de ce premier type d'étude, c'est effectivement comment le droit peut changer, en fait,
oui.
Les représentations, comment le droit entend changer les représentations. D'autres études, là, avec une vocation évidemment plus critique, c'est-à-dire que, certes, ce n'est pas des travaux militants, Et vous vous doutez, le simple fait de raconter comment le droit participe de la coproduction des rapports de genre, le simple effet de dévoilement, bah forcément, ça a par moments un effet un peu sidérant. On voit quand même des choses. Le deuxième type de travaux, c'est les travaux qui tentent de montrer comment certaines règles, certains dispositifs, alors que finalement le droit français, on pourrait penser, a été très largement nettoyé, très largement neutralisé depuis une dizaine, une vingtaine d'années, comment certains dispositifs restent dans le droit positif discriminatoire, comment ils peuvent être soit directement discriminatoires, et on pourra avoir tout un ensemble d'analyses sur le droit de la protection sociale et le droit des retraites, par exemple, où il y a encore des dispositifs qui méritent une analyse ou un questionnement en termes de discrimination, ou comment certains dispositifs, sans être discriminatoires, c'est-à-dire sans contenir véritablement un critère désavantageant un sexe ou l'autre, ou même le désavantageant de manière indirecte, comment certains dispositifs impliquaient une certaine vision stéréotypée. Ça, c'est le deuxième type de recherche. C'est-à-dire comment certains dispositifs construisent une certaine représentation. Et donc, vous verrez, si vous feuilletez le livre, il y a tout un ensemble d'analyses qui montrent, en fait, comment certains dispositifs, loin d'être sous l'axe, loin de viser à la neutralisation, en fait, visent clairement à distinguer entre deux genres et à distinguer parfois au détriment d'un genre vis-à-vis de l'autre. Et puis, le troisième type de recherche, qui s'écarte à la fois d'une description en termes d'égalité ou une description en termes de lutte contre les discriminations. Le troisième type de recherche a essayé d'implémenter, d'utiliser, de mobiliser dans le champ de la recherche juridique des outils ou des concepts propres aux gender studies. Et alors, on s'est un petit peu arraché les cheveux sur des catégories d'analyse, des outils pour décrire le droit qui sont ceux de règles sexo-spécifiques, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une règle qui se fonde sur un critère de sexe, ou qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype et comment on peut utiliser l'idée de stéréotype pour comprendre et pour décrire les phénomènes juridiques. Et donc ici, avec une tentative de faire de l'étude des règles à la manière des gender studies, quelque chose de différent d'un point de vue méthodologique par rapport à des descriptions classiques du droit. Alors, puisque les deux premiers types de descriptions s'écartaient assez peu de la méthodologie habituelle du droit, c'est-à-dire décrire les dispositifs sur l'égalité ou essayer de regarder comment des règles peuvent produire des discriminations, ça nécessitait pas un appareillage méthodologique différent. Voilà. Tu veux peut-être rajouter sur quelque chose comme...
Simplement, peut-être dire aussi que plus largement, on s'est aussi intéressé dès le départ à la façon dont le droit attribuait, même parfois de façon totalement presque invisible, des rôles sociaux de sexe hiérarchisés et différenciés. Dans ce domaine, on s'est aussi intéressé à ce qu'on appelait des règles gender blind, dans un bon français, c'est-à-dire des règles qui se disent aveugles au genre, donc qui prétendent à l'universalisme, qui prétendent à la neutralité, mais qui, en réalité, montrent que l'universalisme est conçu comme un... ou l'universel est conçu comme un universel masculin. C'est le cas, alors on l'a beaucoup montré... notamment en étudiant les manuels de droit constitutionnel, quand même de façon assez répandue, là j'ai trois exemples sous les yeux de manuels de droit constitutionnel qui posent que le suffrage universel a été introduit en 1848, alors qu'en 1848, évidemment, il s'agit d'un suffrage universel qui est masculin. Et pourtant, on parle de suffrage universel sans sourciller dans les manuels. Donc il y a une sorte d'aveuglement à cette question du genre du pouvoir, qui est évidemment, jusqu'en France, jusqu'à ce que se pose la question de la réforme constitutionnelle de la parité, qui est évidemment un genre qui est marqué par, en tout cas de fait, même si le discours du droit est un discours qui se veut neutre et universel, de fait, la réalité politique montre qu'il y a une domination masculine sur les lieux de pouvoir. Et je pourrais vous donner, vous l'avez dans l'ouvrage, les statistiques jusqu'en 1999, elles sont vraiment sans aucune contestation possible. On est à des niveaux d'occupation des lieux de pouvoir par les hommes qui est extrêmement élevé. Donc cet universel, ce neutre, c'est évidemment un faux universel qui masque une réalité qui est celle de la domination du pouvoir par les hommes. Et cette domination, elle est permise par le droit, même de façon, on pourrait dire, involontaire ou inconsciente. Mais il se trouve que le droit est à l'origine, ou en tout cas, il est un des vecteurs qui permet cette domination masculine sur le pouvoir. Et l'analyse que l'on produit donc de cette situation montre comment, effectivement, on dévoile cette réalité d'un universel qui ne l'est pas et d'une domination sur les lieux de pouvoir exclusivement masculine. Par ailleurs, pour du point de vue méthodologique, pareil, pour ce qui est de la parité, justement, on a eu une autre façon de procéder aussi qui était de s'intéresser non seulement aux droits, c'est-à-dire aux règles qui sont posées, mais également aux débats politiques qui ont eu lieu dans les assemblées au moment de l'adoption des différentes réformes et des arguments qui étaient proposés par les différents acteurs pour justifier ou pour, au contraire, contester les réformes qui étaient proposées. Donc on s'est aussi intéressé au discours politique, mais comme nous sommes des juristes, on s'est intéressé au discours politique dans sa forme, dans son argumentation juridique. Notamment, on s'est beaucoup intéressé à la façon dont les acteurs politiques se cachaient volontiers derrière le Conseil constitutionnel pour dire mais ces réformes ne pourront pas passer parce que le Conseil constitutionnel s'y opposera. Voilà.
Moi, je crois que le mieux pour comprendre le type de travaux qu'on a fait, c'est de voir avec un cas. Et justement, je crois que tu voulais présenter un cas, c'est-à-dire le travail sur lequel tu as animé avec d'autres. Et je crois que c'est peut-être le plus intéressant pour ensuite rentrer dans le débat ou dans la discussion, dans les questions.
Alors, pour ma part, j'ai travaillé avec Charlotte Girard, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Ouest Nanterre, sur la question de la parité en politique. Et notre travail s'insérait dans le travail d'un pôle qui posait la question donc, du rapport entre mixité et pouvoir. Et nous avions donc des terrains d'analyse qui posaient la question donc de l'exercice du pouvoir et du genre. Donc ces terrains d'analyse, c'était les mondes politiques, administratifs, économiques et professionnels. Ces terrains d'analyse ont en commun d'être des lieux de pouvoir puisqu'il s'agit de produire des normes sur la base d'un mandat politique, d'exercer dans l'administration des fonctions de commandement hiérarchique, de désigner des personnes à des postes d'encadrement, encore dans l'administration, d'exercer des responsabilités au sein d'une entreprise, que l'on se situe d'ailleurs du côté des salariés ou que l'on se situe du côté des administrateurs de société. Donc on s'est posé la question du pouvoir et du rapport entre genre et pouvoir. Et plus précisément, on s'est posé la question, entre guillemets, du genre du pouvoir. Et l'autre question était celle, alors c'est des jeux de mots, mais la question du jeu de mots n'est pas importante. Ce que l'on voulait dire, c'est à la fois voir quel était le genre du pouvoir, mais aussi voir comment l'outil genre, à partir du moment où on prend acte d'une domination et que l'on crée des normes genrées pour rétablir l'équilibre entre hommes et femmes, on s'est posé la question également du pouvoir du genre en tant qu'outil du droit. Est-ce qu'il permet ou pas de modifier les équilibres ? Donc, évidemment, le premier constat qu'on a fait, c'est celui d'un un évident genre du pouvoir. Ça, c'est pas difficile, j'en ai déjà parlé. Ce genre du pouvoir est masculin et il révèle donc l'assignation des femmes à un rôle second dans le domaine politico-administratif et économico-professionnel. Mais ça, ce sont des faits. On peut les observer statistiquement, c'est pas difficile. La question qui se pose à nous, juristes, puisque c'était notre objectif, c'était de savoir quelle était la part du droit dans la surreprésentation des hommes dans ces lieux de pouvoir. Et peut-être qu'il faudrait pas seulement dire des hommes, mais de dire de certains hommes. Et par certains hommes, j'entends des hommes plutôt blancs, plutôt éduqués et plutôt riches. Parce que c'est ça aussi la complexité de cette question du genre. Donc, est-ce que la question qui se posait à nous, c'est de savoir, est-ce que le genre du pouvoir dépend du droit? Et si oui, comment le droit a-t-il genré le pouvoir? C'est-à-dire, comment le droit a fait que les hommes dominent les lieux de pouvoir? Ça, c'était la première série de questions. L'autre série de questions s'intéresse au genre, cette fois-ci comme outil du droit. Quand le droit a pris acte de cette domination masculine sur les lieux de pouvoir, la question était de savoir si, en introduisant des normes genrées, en matière politique, c'était essentiellement des normes symétriques, des normes qui concernent à la fois les hommes et les femmes pour des raisons de respect de cet objectif constitutionnel de la parité, justement, eh bien, est-ce que le droit permet de faire cesser cette domination ou est-ce qu'il permet, au contraire, de réintroduire une nouvelle forme de domination? Pour répondre à ces questions, on avait distingué deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le droit prescrit que le pouvoir doit être aveugle au genre. Et donc, aveugle aux rapports sociaux de sexe. En étant aveugle au genre, en étant aveugle aux rapports sociaux de sexe, on a constaté que le droit a implicitement, en tout cas, permis la domination masculine sur les lieux de pouvoir. Dans la seconde hypothèse, le droit fait du genre un outil pour remédier aux inégalités. Et pourtant, ce sont les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, le droit n'empêche pas la domination masculine sur les lieux de pouvoir. Au contraire, il en assure la permanence sous une nouvelle forme. Ça, c'est l'aspect critique dont tu parlais tout à l'heure, qui résulte aussi de ces analyses, de ces mécanismes genrés. Donc, je vais passer assez vite sur la première hypothèse, parce que c'est la plus connue, et j'en ai un peu déjà parlé avec le faux universel. Le droit aurait, en quelque sorte, genré le pouvoir, sans le vouloir, sans le savoir, peut-être implicitement, peut-être même hypocritement. En tout cas, ce faux universel, cet universel qui permet dans les faits la domination masculine sur les lieux de pouvoir, eh bien, on dénonçait, notamment à partir de la réforme de la parité en 1999, une fausse inclusion des femmes pour exercer le pouvoir en politique. Une fausse inclusion en droit et une vraie exclusion dans les faits. Face à cette position qui critiquait donc ce faux universel, eh bien, il y avait ceux qui défendaient encore l'universel comme étant la seule garantie, le seul vecteur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et cette position, elle était notamment défendue par le Conseil constitutionnel. Et si on a dû en France adopter une réforme constitutionnelle de la parité, c'est parce que le Conseil constitutionnel s'est opposé à l'introduction de toute disposition législative qui était genrée en matière politique. Maintenant, concernant la deuxième hypothèse qui est peut-être un peu moins connue. La deuxième hypothèse porte donc sur cette inauguration du genre comme outil du droit. Et ici, qu'est-ce que l'on constate après que des dispositifs constitutionnels ont été adoptés, d'abord constitutionnels puis législatifs, il y a eu pas moins de 10 textes législatifs qui ont été adoptés pour mettre en œuvre la parité effectivement en France à partir de 1999, bien, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la domination masculine sur les lieux de pouvoir n'a pas reculé, mais qu'elle s'est maintenue sous de nouvelles formes. Alors je vais expliquer ce que j'entends par là. Pourquoi elle s'est maintenue sous de nouvelles formes ? Eh bien, d'abord parce que s'il est vrai que désormais, statistiquement, on peut observer qu'il y a plus de femmes en politique et dans d'autres lieux de pouvoir, eh bien, si statistiquement, effectivement, elles sont là, plus nombreuses, le problème, c'est que qualitativement, eh bien, elles sont toujours assez faiblement représentées dès lors que sont en cause les lieux de pouvoir les plus convoités. Donc elles sont là quantitativement, de façon effectivement plus évidente, mais qualitativement, pas vraiment. Donc il y a un effet cosmétique, on pourrait dire, de la réforme de la parité. Comment on s'y est pris pour arriver à ces conclusions ? On s'y est pris en deux temps. D'abord, on a observé quelles étaient les mesures qui ont été effectivement adoptées. Sur les mesures qui ont été adoptées, je vous l'ai dit tout à l'heure, la place qui a été privilégiée par le législateur, c'est celle de mesures genrées symétriques, c'est-à-dire celles qui présentent donc à la fois, à chaque fois, la présence d'un homme et la présence d'une femme. Ce qui, dans le langage journalistique, a donné lieu à cette fameuse, à ce qu'on appelait la parité shabadabada, qui est une expression qui déjà est elle-même porteuse de stéréotypes. Enfin bon. Donc, il y a cette idée que pour faire du genre un outil pour rétablir et donner plus de place aux femmes en politique ou dans les lieux de pouvoir, eh bien, il fallait adopter ces fameuses mesures genrées symétriques. Mais le problème, c'est que en politique comme dans d'autres lieux de pouvoir, eh bien, parfois, on ne peut pas prévoir la présence à la fois d'un homme et d'une femme. C'est très facile, par exemple, lorsque on est dans des scrutins de liste où on peut alterner un homme, une femme. Mais évidemment, le problème de ces mesures genrées symétriques, c'est qu'elles ne sont pas applicables lorsque est en question un seul poste de pouvoir à prendre. Parce que une place de plus pour une femme, c'est une place de moins pour un homme. Et donc là, on retrouvait le cœur de ces difficultés. Et on a constaté que dans les différents domaines que nous avons examinés, donc je répète, hein, politique, administration, entreprise, eh bien dans ces différents domaines, on avait des dispositifs à géométrie variable, selon qu'on pouvait donner une place à un homme et à une femme, ou selon qu'il y avait une seule place à prendre. Et donc en politique, par exemple, on a pu constater qu'il y avait une parité à deux vitesses. D'un côté, une parité alternée dans tous les scrutins de liste, parce que c'est facile, il suffit d'alterner un homme et une femme, alors que dès qu'il y a un scrutin uninominal, où il y a une seule place à prendre, eh bien là, c'était beaucoup plus compliqué, et on a parlé d'une parité monnayée. Dans tous les scrutins uninominaux en France, on monnaie la présence des femmes. Si les partis politiques ne respectent pas l'objectif de parité, eh bien ils doivent payer. Donc la parité est monnayée et ils sont punis du point de vue de l'aide financière qui est donnée aux partis politiques. Donc je peux donner l'exemple en politique, mais il y a par exemple pour les jurys de concours la même difficulté. On a des dispositions qui visent à jurer de concours, qui visent à genrer les jurys de concours, donc à prévoir la présence de femmes dans ces jurys, mais les dispositifs ne prévoient pas l'obligation de la présence de femmes en tant que président des jurys. Là, l'objectif de parité n'apparaît plus. De même, dans la haute fonction publique, il y a des postes qui sont genrés, et puis on ne sait pas pourquoi, d'autres qui ne le sont pas, dans les dispositifs qui sont prévus. Ou encore, il y a des lois qui visent certaines entreprises et pas d'autres. Et là encore, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà comment on a travaillé. On a travaillé en analysant les mesures concrètes, et ensuite on a produit une analyse critique de ces mesures, en se posant la question de savoir où en sont les femmes dans le pouvoir. Et la conclusion, je vous l'ai dit tout à l'heure, certes, il y a plus de femmes, mais là où il y a le moins de pouvoir. Donc, d'où l'idée que, finalement, on a en quelque sorte maintenu une forme de domination, mais sous de nouvelles apparences. Et puis, enfin, ce sur quoi je terminerai, c'est sur les difficultés qu'on a rencontrées. Parce que je pense que c'est ce qui peut aussi vous permettre de comprendre toute la complexité de cette réflexion sur le droit et le genre. Première difficulté, au regard de quels objectifs il faut interpréter le bilan de ces mesures. Quel est l'objectif qui est poursuivi ? Les objectifs sont définis dans les textes avec des termes qui sont souvent difficiles à cerner. Qu'est-ce que c'est que la parité ? La parité, c'est un terme que l'on utilise pour désigner toutes ces réformes qui ont été introduites à partir de 1999, notamment dans la Constitution. Mais le mot parité n'appartient pas au vocabulaire du droit. Le mot parité, c'est un mot qu'on utilise pour communiquer sur ces questions. Mais il se trouve que la parité n'est pas l'objectif qui est fixé par la Constitution, puisqu'il s'agit pour le législateur de favoriser l'égal accès des hommes et des femmes au mandat politique. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose, favoriser l'égal accès et parler de parité. Par ailleurs, si vous regardez dans l'ouvrage, vous verrez que le terme parité lui-même peut être entendu de très nombreuses manières. Qu'est-ce que la mixité ? D'autres textes parlent de la meilleure représentativité. Qu'est-ce que la meilleure représentativité ? Encore d'autres textes font référence à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation équilibrée ? D'autres textes parlent, justement, je vous le disais, de favoriser. Qu'est-ce que c'est que favoriser l'égal accès ? Pourquoi favoriser ? Pourquoi pas garantir ? Qu'est-ce que l'égal accès ? Donc, vous voyez, on a des difficultés pour comprendre quel est le contenu de ces objectifs qui sont fixés. Déjà, pour la parité en politique, qui était en quelque sorte la matrice de ces dispositifs genrés, qui se sont ensuite étendus à tous les autres lieux de pouvoir dont je vous ai parlé. Donc déjà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en politique. Donc imaginez-vous ensuite quand on veut étendre tout ça à d'autres domaines. Deuxième difficulté, quelle est la part des obligations ou des contraintes juridiques qui limitent la force des mesures qui sont favorables aux femmes, puisque je vous ai dit que, finalement, on pouvait douter du pouvoir du genre en tant qu'outil du droit. Et bien là encore, une des difficultés, je pense assez essentielle, c'est que le législateur n'est pas le législateur n'est pas tout seul pour décider du sens qu'il va conférer au texte qu'il adopte. Et en particulier, il a fallu compter avec le juge constitutionnel qui à chaque fois est intervenu, notamment pour limiter la portée de certaines mesures. Enfin, troisième difficulté, quelle est la part de volonté politique délibérée ? Là encore, c'est l'analyse critique qui surgit ici. Quelle est la part de volonté politique délibérée, plus ou moins soigneusement cachée, de maintenir un statu quo ? C'est-à-dire de changer les choses sans les changer, véritablement. Et là aussi, dans la plupart des interventions qui ont été celles du pôle mixité et pouvoir, les chercheurs ont dénoncé ce que j'ai appelé tout à l'heure des effets cosmétiques qui étaient recherchés par les dispositifs adoptés. Il y a bien, je vous l'ai dit, plus de femmes, mais d'un point de vue numérique seulement. Les postes de pouvoir restent entre les mains des hommes. Et de nombreuses interventions montrent aussi parfois la duplicité de certains arguments qui sont avancés pour justifier la faiblesse de certains choix sur la parité monnayée dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'idée que on peut pas, quand il y a un scrutin uninominal, on ne peut pas appliquer la parité. La parité, ce serait nécessairement la présence d'un homme et d'une femme. Et donc, s'il y a un scrutin uninominal, eh bien, on ne peut rien faire. Et donc, nécessairement, il faut monnayer la parité et le dispositif, la garantie sera plus faible. Or, une réforme très récente de 2013 sur l'élection des conseillers départementaux montre le contraire. La volonté politique peut, à un moment donné, rendre un scrutin uninominal binominal. Et les conseillers départementaux, si un jour ces conseillers sont élus avec cette modalité, puisqu'il y a une réforme en cours du dispositif territorial, donc je ne sais pas si ça existera un jour, mais en tout cas, on peut aussi, dans le cadre d'un scrutin qui est un scrutin majoritaire, passer à un scrutin binominal. Alors sur ces questions-là, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Nous avions, Charlotte Girard et moi, été contactés par un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale de femmes députées qui nous avaient consultés sur les dispositifs paritaires qu'il fallait encore, qu'il était possible encore d'adopter pour renforcer la parité en politique. Et elles nous avaient sur la question des conseillers départementaux et donc de ce scrutin binominal, elle nous avait indiqué à quel point les hommes avaient été vraiment à la tête d'une révolte à l'Assemblée nationale contre ce dispositif. Parce que qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait que pour les sortants, eh bien, il y en avait nécessairement la moitié qui perdait, qui ne pouvait pas revenir, qui ne pouvait pas se représenter. Or, dans la carrière d'un homme politique, l'élection sur son nom, dans le cadre d'un scrutin uninominal, eh bien, c'est une première étape très importante. Donc vous voyez que c'était, pour un scrutin qui n'est pas un scrutin à dimension nationale, un enjeu très très important. Et puis, enfin, sur ces questions-là, sur ces logiques de contournement, sur ces effets cosmétiques, eh bien, je vous renvoie à l'ouvrage où vous verrez que on constate les mêmes choses dans les conseils d'administration des établissements publics. Pour les conseils d'administration des établissements privés, il y a toute une série de dispositifs qui donnent l'impression eh bien, que on est dans une forme de, encore une fois, de duplicité ou d'hypocrisie. Voilà.
Oui, donc vous avez compris, dans nos travaux, il n'y a pas de dimension militante, mais parfois ça transparaît quand même un petit peu.
Ce que je peux rajouter, c'est que concernant la dimension militante, moi, j'ai pas du tout l'impression de militer pour quoi que ce soit quand je rends compte des résultats de nos recherches. Je suis un peu sidérée, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a un effet de sidération des résultats auxquels nous sommes parvenus. On est parfois un peu, décontenancés. Mais en même temps, lorsque j'ai été confrontée à ces femmes députées qui nous interrogeaient sur notre, entre guillemets, expertise en matière de parité, là, j'ai été véritablement saisie par le militantisme de ces femmes députées, qui sont pourtant celles qui nous ont contactées, c'est celles qui appartiennent au groupe majoritaire. Donc on pourrait considérer qu'elles sont dans une position plus confortable. Or, ce que moi j'ai retenu de cet échange avec ces femmes députées, c'est toute la difficulté qu'elles ont d'abord à se faire élire, Parce qu'il faut savoir que pour bénéficier d'une investiture dans un parti, là, c'est déjà tout un parcours du combattant pour une femme politique. Moi, je ne l'imaginais pas à ce point-là. Avec, vous en avez certainement entendu parler, les fameuses circonscriptions qui sont dites perdantes et que l'on offre gracieusement aux femmes en leur demandant de se débrouiller avec ça. Enfin, voilà, moi, je suis assez frappée à la fois par justement les résultats de ces travaux de recherche qui ne permettent. Moi, je ne m'attendais pas à tomber sur cette conclusion qui est que finalement, le genre comme outil du droit permet une forme de renouvellement de la domination. Même si, effectivement, au premier abord, on peut douter de ce renouvellement dans la mesure où, statistiquement, il est évident qu'il y a plus de femmes. Mais je vous dis, ce qui a été vraiment ce qui a été vraiment un effet de dévoilement pour moi, c'est de rencontrer des femmes politiques et de voir les difficultés qu'elles connaissaient tous les jours dans leur installation dans cette carrière. Parce que, de prime abord, ce que j'ai vu, c'est véritablement des rapports au sein d'une même famille politique très, très tendus entre hommes et femmes. Et d'ailleurs, lorsque nous avons été contactés, nous étions contactés par un groupe politique à l'Assemblée, et non pas par des femmes députées, et il se trouve qu'il n'y avait que des femmes députées, et aucun homme qui s'intéressait à la question de la place des femmes dans les lieux de pouvoir.